c'est plus simple. Par la suite, soit par vous-même, vous nuancerez ou vous préciserez d'autres choses. Mais la première difficulté, c'est que un des niveaux de la Neshama s'appelle Neshama. Mais c'est tout l'ensemble qui sont les cinq niveaux d'identité de la Neshama. Alors nous allons d'abord expliquer ce mot-là. La Neshama, on va traduire par âme en français. Et c'est le sujet que chacun est, tel que Dieu l'a créé, et qui se trouve inséré dans la vie du monde à travers le corps. Nous avons là deux réalités radicalement différentes. L'âme, c'est le quelqu'un de chacun. Et ce quelqu'un de chacun, et peu importe les termes que je vais employer maintenant en français, c'est l'idée qui importe, ce quelqu'un de chacun est incarné dans le monde à travers les corps. Voilà le premier chemin. Donc, deux mots apparaissent, le coup, ça veut dire le corps, c'est comme ça ou comme ça?
Le
cheval. Bon, ça va. Et je ne sais jamais faire ça. C'est ça. Ah. Du coup, ça veut dire le corps. Et faites attention que le corps est déjà vivant. C'est déjà un être vivant, un être animé. Et d'où le mot étymologiquement parlant de animal. Mais animal, ça ne veut pas dire une bête. Ça veut dire un être animé, un être vivant. Et le gouf dont nous parlons, ce n'est pas un cadavre. C'est déjà un être vivant qui va devenir le véhicule d'une neshama. Le résultat de cette synthèse, si j'ose dire, entre la neshama et un gouf, s'appelle premièrement un être. Pas trouvé. Bon. Je ne l'ai pas trouvé parce que je pense que ça va. Donc, c'est pas que c'est pas des signes, c'est des voilà. Alors, le mot de Nefesh va désigner la personne de chacun, de chaque un, mais au niveau le plus inférieur. C'est-à-dire au niveau des tendances, des instincts, des conduites de la vie purement corporelle. C'est la Neshama qui se trouve dans le Nefesh, mais au niveau le plus inférieur. Plus haut, le niveau supérieur de la Neshama qui s'appelle Ruach, ce n'est déjà plus la vie instinctive, mais c'est déjà la vie spirituelle. Et dans la catégorie hébraïque, cette vie spirituelle commence par la vie affective. Vous voyez, la conscience d'être quelqu'un apparaît, si vous voulez, déjà au niveau du Nefesh, mais à une échelle très collective. Tous les hommes sont des individus de l'espèce humaine. Et donc chaque personne est premièrement un individu de l'espèce humaine. Et ça fonctionne de manière analogue. Et puis la psychologie, d'autres sciences, l'anthropologie nous aident à comprendre comment la Neshama devient Nefesh au niveau de la vie corporelle. C'est le monde des tendances, des instincts. Ruach, c'est déjà supérieur. C'est le monde de la vie spirituelle. Neshama, c'est un niveau encore supérieur, c'est le monde de la vie intellectuelle. Et puis Chaya, c'est le monde de la conscience et la conscience des valeurs, au-delà des idées, des valeurs. Et donc, c'est, si vous voulez, le niveau de la sagesse plus haut que l'intelligence, que la vie intellectuelle à proprement parler.
C'est déjà la vie morale.
C'est déjà la vie morale, mais ben, je reviendrai à préciser quand même. Oui, je ne vous ai pas traduit les différents mots, on verra la traduction après. Mais d'abord, si vous voulez l'idée générale. Nefesh, c'est la vie instinctive. Ruach, c'est la vie spirituelle. Neshama, c'est la vie intellectuelle. Oui, il y a apparemment un paradoxe. C'est que la vie intellectuelle est supérieure à la vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que la vie spirituelle, c'est encore le monde des émotions. C'est entre même des émotions les plus subtiles, les plus sublimes, si vous voulez. C'est entre la vie intellectuelle et la vie instinctive. Du haut, Chaya, c'est ce qui fait la vie de la vie. Chaya, ça veut dire la vivante. Ce qui fait la vie de la vie, c'est la sagesse, la conscience des valeurs. C'est à ce niveau-là qu'est la sagesse. Et puis, Yehida, c'est le mystère de l'individuation de chacun. L'infini que chaque personne est et qu'elle est seule à être. Yehida, l'unique. Le niveau où chaque personne est unique, c'est-à-dire uniquement elle-même. Pour comprendre dans le premier, ce qui fait que les valeurs sont des valeurs. Que l'on peut comprendre au niveau des idées, que l'on peut vivre au niveau de la vie spirituelle et agir au niveau de la vie corporelle. Voilà, si vous voulez, l'effort que nous avons à faire, c'est d'identifier ces manières de la conduite humaine au niveau d'une société. Dans une société, vous aurez les forces du Nefesh, les forces du Ruach, les forces de Neshama, etc. C'est-à-dire une espèce de spécialisation de la dévocation, des fonctions de chaque personne à l'échelle d'une société. Et lorsque l'occurrence historique de la confrontation avec ce problème de la foi dont nous aurons à parler par la suite arrive, la réaction des différentes couches de la société se trouvait différente.
Le langage. Quelle est la situation du langage ?
Et il apparaît avec l'effet. Ici, je vais nuancer un peu, il y a deux niveaux de nez. Il y a le nefesh qu'on appelle le nefesh bahami, c'est-à-dire le nefesh animal, vraiment. Mais animal, ça ne veut pas dire une bête. Ça veut dire un être animé, un être vivant d'un vie biologique. Et si vous voulez, les instincts de l'espèce en chaque individu. Il y a un deuxième niveau qu'on appelle le nefesh shemit. Là, le mot de nefesh est au féminin, okay? Donc bahami et shemit. C'est ce même nefesh, mais tel qu'il est spécifié pour chaque individu. C'est-à-dire, premièrement, nous sommes tous des êtres humains, et la nature humaine fonctionne de la même manière au niveau du nefesh bahami. Et deuxièmement, au niveau de la vie instinctive elle-même, chacun d'entre nous a son équation personnelle qu'on appelle le nefesh chéni. Il ne va pas trop compliquer les références, il faut aller les idées. Alors vous voyez que, au fur et à mesure que l'on monte dans ce niveau de la Neshama, la spécification, l'individuation de chacun s'affine ou se dévoile de façon de plus en plus grande. Okay. Dans les minutes, vous voyez, dans les minutes. Le deuxième principe, c'est que chacun de ces niveaux contient les 4 et 5 autres. C'est-à-dire que vous avez ces niveaux-là qui se trouvent à chaque étage. Il y a donc le nefesh du nefesh, le ruach du nefesh, le neshama du nefesh, haya du nefesh, yehida du nefesh, etc. Ça, c'est clair jusqu'au bout. Vous voyez donc que la vie morale va déjà apparaître au niveau du nefesh. À quel niveau ? Au niveau haya du nefesh. Mais elle est pleinement elle-même au niveau haya à proprement parler. Ça, c'est le deuxième principe. Bon, il en reste que chaque neshama, ceci est formel, c'est un symbolisme formel que pour le moment j'explique, mais vous identifiez concrètement dans toutes les situations de la vie. On pourrait ici fonder toute une étude sur ce qu'est l'anthropologie concrète selon la tradition de la Torah, c'est-à-dire les niveaux de l'identité humaine. Alors il en résulte qu'il y a 25 niveaux d'être. Et le sens général de la destinée de chacun, et ça s'éclairera par le troisième principe que je vais citer, c'est que nous devons acquérir en tant que créature le mérite d'être à chacun des lieux. C'est, si vous voulez, pour, en parlant toujours avec les termes français, une ascension du mérite d'être de niveau 1. Ceux qui savent un peu d'hébreu, c'est sauf l'allusion qu'il y a chaque fois qu'une promesse est donnée à l'homme en tant que créature, elle commence par le mot « ko ». Ainsi cela se passe. « Ko tevarechou et bene Israël. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. « Ko tomar et bete akou. Ainsi tu parleras à la maison de Jacob. » Chaque fois qu'il y a « ko », c'est l'allusion, vraiment le mérite de « ko ». C'est 25. C'est l'allusion à ces 25 niveaux. C'est-à-dire, au fond, à ces 5 niveaux, mais qui ont eux-mêmes ces mêmes étages, mais multipliés à l'infini. J'arrive à un troisième principe, c'est que au fur et à mesure de l'ascension du mérite d'être, le gouffre, qui est le véhicule de la personne de chacun, incarne plus de Neshama. Vous avez compris ce que je dis ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas équivalence entre les individus et leur situation en tant que personne. Il y a une inégalité totale entre les individus par rapport à l'acquis de leur personne. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, c'est suivant la capacité de mérite d'être de chacun. Suivant la capacité de mérite d'être de chacun, le goût, c'est-à-dire le véhicule terrestre, corporel, de l'insertion dans le monde de chaque neshama, inclut plus de niveaux de la neshama. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous comprenez les implications de toutes sortes que cela a. Alors, il a résulté que chacun se trouve dans une situation particulière de sa propre histoire personnelle et que, pour certains, la neshama n'est incluse dans l'être de chacun qu'au niveau nefesh, pour d'autres déjà au niveau roar, pour l'autre déjà au niveau neshama, etc. Est-ce que c'est clair? Vous voyez bien que c'est un schéma formel et qu'en fait, il y a une infinité de niveaux, qu'à chaque conduite, il y a une confrontation avec l'épreuve du mérite d'être si ce niveau est incarné. Et le niveau 8, c'est au-delà. Vous savez qu'après 25, il y a 26. Vous comprenez que. Bon. Et voilà donc, grosso modo, ce schéma. Et comment cela éclaire notre midrash de la Meshita qu'on a cité tout à l'heure? C'est que ce schéma est valable non seulement pour la destinée de l'individu qu'est chacun, mais aussi pour toute entité collective, les entités nationales, les peuples, et en particulier le peuple d'Israël. Et par conséquent, quand un événement choralie, c'est-à-dire historique dans le sens total de confrontation avec la manière d'être homme que représente chaque peuple, et dans notre cas le peuple d'Israël, arrive, alors les différents niveaux de l'être de cette entité collective réagissent à chacun. Je reprends la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Okay. Il y aurait là un mécanisme aveugle, impersonnel, fatal, s'il y a abdication de volonté. Alors ça fonctionne ainsi, et inévitablement, lorsque l'événement arrive dans l'histoire, alors on voit que l'unité du peuple éclate dans ces quatre niveaux qui sont cinq. Mais s'il y a assomption de la liberté, eh bien, ceci est maîtrisé, ceci est dépassé. C'est une dialectique entre liberté et conditionnement que nous retrouvons dans une autre analyse un peu plus tard. Voilà donc la signification de ces correspondants. Vous voyez, dans les trois niveaux premiers, l'ensemble d'Israël s'appelle Ham, le peuple, et l'étymologie du mot Ham se rattache au mot Haïm, qui veut dire ceux qui sont ensemble, Haïm, avec. Le fait d'être l'un avec l'autre. Ce n'est qu'au quatrième puis au cinquième niveau que je me suis dit tout à l'heure, je vous ai dit quatre fois, hein, au quatrième et au cinquième niveau que l'identité de la personnalité, de la personne, du groupe dont on parle, apparaît dans sa personne même et non pas seulement dans un agrégat, une somme d'individus, ça s'appelle l'âme, et que le nom de l'Israël apparaît dans le groupe. Oui. Mais vous avez remarqué vous-même que d'un point de vue formel, ces thèmes du Midrash se retrouvent dans la structure même du récit biblique. C'est-à-dire, je reprends une expression qui vous est familière, ce n'est pas par hasard que le récit commence à travers cette structure. Trois fois âme, puis au quatrième niveau, Bnei Israël, puis au cinquième niveau, Bnei Israël. Et vous voyez les différents niveaux de libération des conditionnements psychiques, instinctifs, sociopolitiques, libération de cela pour arriver au cinquième niveau où Bnei Israël, Yotzim, Yad Rama, complètement libéré, au-delà de toutes les conditions. Encore un principe corollaire, il est bien évident que tant que l'unité, la synthèse de ces différentes forces nécessaires à la présence de chaque neshama dans le monde de la nature, dans le monde des conditionnements naturels, tant que ces forces ne sont pas rendues compatibles, organisées, unifiées à la limite, elles luttent entre elles. Mais le nefesh ne voit pas plus loin que le nefesh. Le rouach ne voit pas plus loin que le rouach. Et donc il y a une lutte du nefesh contre le rouach, mais une lutte du rouach contre la neshama qui est en lutte contre la chaya, etc. L'unité n'est pas réelle. C'est vrai à l'échelle de la synthèse personnelle, c'est vrai à l'échelle de la synthèse sociale. Mais voyez à travers quelle structure le récit formule ce qu'il a à nous dire. Devant le même événement, la sortie d'Égypte, et puis l'impasse qui va se produire devant la mer Rouge, quatre réactions différentes qui sont cinq au niveau ultime, et les appellations, la nomination même change. Voilà pour la première. C'est-à-dire, au fond, le principe est très simple. Si nous voulons comprendre la logique ou la signification de l'histoire d'Israël comme entité humaine, eh bien, il faut la comprendre à travers la signification de l'histoire d'une destinée individuelle. Il y a comparaison entre un individu, une personne unique, et d'autre part, un peuple dans son ensemble, et les différents étages de l'expression de cette identité à chaque occasion ou à chaque péripétie. Ce n'est que lorsque l'unité de l'ensemble apparaît qu'il y a cohérence. Tant que l'unité de l'ensemble n'est pas construite, alors il y a conflit intérieur des différentes tendances. Bien. Là, je déboule la première analyse. Bien.
À chaque galoute, à chaque épreuve, on dirait aussi qu'il faut recommencer à traverser tout ce que. Peut-être qu'on arrivera à faire ce qu'il faut.
Mais à un niveau différent. À un niveau différent. Attendez, la première partie de votre question, que vous avez dit à chaque famille.
Donc, dans les familles, il semble qu'il y ait ces niveaux différents et qui n'est pas unité dans la même famille. Il y a une difficulté justement de dialogue parce que chacun semble appartenir à une de ses
époques. Très bien, oui. Écoutez, je vais vous dire. Nous sommes dans un temps de cette histoire de la destinée ou des destinées, je n'ai pas dit destin, ce serait un autre thème, où finalement il y a un état de chaos. C'est-à-dire, tout est simultané et mélangé. Au temps de la prophétie, de la révélation, on pouvait s'identifier. Chacun savait qui il était. Pour rappeler la formule de Socrate, connais-toi toi-même. Chacun savait qui il était, à quel niveau il se situe. Il y avait une possibilité d'harmonie beaucoup plus offerte. Mais nous sommes dans un temps qu'on appelle Olamato, un temps de pêle-mêle, un temps de chaos. Tout est signifié. Vous avez remarqué cela aussi dans les études de la Torah. Tous les niveaux sont à la fois, vous avez remarqué. Et c'était un stade anormal. Comment entrer dans la connaissance que la Torah nous donne, et qui a une structure par niveau, par progrès. On commence à un certain niveau, on continue. Non, tout est simultané en état de chaos, vous avez remarqué ça. Et n'importe quel étudiant de la Torah, fût dans des écoles organisées, se trouve confronté avec un univers où tous les niveaux sont sur le même plan. Et il faut énormément de temps pour arriver à organiser une constellation cohérente des niveaux de connaissance. C'est Olamato. Et de même, à chaque génération, dans la même génération, dans la même société, des personnes de qualité d'être, au niveau du mérite d'être, très différentes, sont simultanées. Imaginez c'est que, je ne sais pas pourquoi, une confrontation, une table ronde entre différents penseurs sur le même sujet. Chacun d'entre eux est à un niveau, un rôle radicalement différent l'un de l'autre, mais tout est mis au même. Est-ce que vous comprenez, une espèce de melting pot d'anthologie, d'auteurs de styles très différents,
Et comme j'étais souvent frappé de cela, il semble bien, j'espère, enfin on peut espérer, qu'un jour le monde sortira de cet état de chaos et qu'on entrera dans un temps d'harmonie, de cohérence. D'après beaucoup de traditions anciennes, c'est ce qu'on appelle le temps du Verseau, où la connaissance sera cohérente. Mais pour le moment, nous sommes encore à la fin du temps des poissons. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, il y avait une figure de proue. Il y avait une espèce de, à l'échelle individuelle, une réussite de l'identité Israël. Alors elle sert de guide, si vous voulez, mais enfin, les mots n'ont pas d'importance, parce qu'on n'a pas le vocabulaire hébreu à notre disposition, mais c'est l'idée qui est importante. Parce que guide, ça a des implications autres. C'est tout à fait exact. Vous voyez, il y avait un Israël réalisé en individu. C'est Moïse et sa famille. Shakul, mon cher Avenu, Shakul, Keneged, Kol Israël Koul. Comme vous avez déjà entendu. C'est exact. Et voilà, je pense que ça peut être expliqué par ce principe-là. Qu'effectivement, il y a une simultanéité de tous les niveaux. Et alors, il y a chaos. Et il y a quand même, si vous voulez, à l'intérieur de cet ensemble en chaos, un milieu privilégié, qui est le milieu des Talmidei Chachamim, si j'ose dire, et où il y a un... Comment on appelle ça en français ? Est-ce que... Un accord, mais... oui, il y a des supposés, des sous-entendus, enfin, un accord préalable sous-entendu, qu'effectivement, dans le milieu des Talmidei Chachamim, cette hiérarchie prend sa valeur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais ça, c'est une sorte de connivence. C'est Nistar. C'est à l'intérieur d'un milieu caché. Mais dans le Niglé, eh bien, c'est un monde chaotique. Parce que tout est au même niveau, de façon simultanée, alors que Dieu sait que dans le monde des choses de l'esprit, la notion d'égalité n'a pas de place. Vous voyez, je ne sais pas si je vous l'ai signalé une fois, je crois. Oui, ça me rappelle ce tableau. En hébreu, le mot égal, ça se dit chavé. Hein? Ça ressemble beaucoup à un mot chav avec aleph, qui signifie vain. Vanité, et chav. Et chavé, ça veut dire égal. Le raisonnement est très simple. Si deux choses sont égales, il y en a une de trop. Hein? En réalité, rien n'est égal. Parce que si deux choses sont égales absolument, eh bien, il y en a une qui est en plus. Il ne peut pas y avoir d'ailleurs deux choses égales. Pour des tas de gens philosophiques simples. Alors, c'est d'autant plus vrai dans le monde du Nefesh. Aucun Nefesh n'est au même niveau chacun. Et même dans l'histoire de chacun. Alors, ça nous renvoie donc à un monde caché où les choses sont en ordre, mais un ordre théorique, un ordre principe. Dans la réalité extérieure, c'est la chaîne, c'est la continuation d'un monde de chaos, qu'on appelle Orlamato. Et voyez, en particulier, je crois que c'est un des problèmes de notre temps, pourquoi la communication est si difficile, parce qu'on ne peut pas avoir de langage commun, étant donné que chaque parole est un livre différent. À quel obstacle se heurte la communication à proprement parler ? On est obligé, si vous voulez, d'employer des implications de sens conventionnelles à un niveau de discours de dictionnaire, avec des implications de signification qui pourraient être communes à tous ces niveaux différents, et c'est très formel, alors que la connaissance à proprement parler est renvoyée à ce monde du Nistar où chaque chose est à sa place, et on comprend exactement de quoi on parle. La même réalité, si elle se trouve à ce niveau-là, je ne parle pas d'un Nefesh de Chaya, elle ne peut pas avoir le même sens que si elle se trouve au niveau Chaya de Nefesh. Vous voyez, donc on dit les choses un peu formelles. Bien. Alors il nous reste la deuxième question, s'il n'y a pas de question entre-temps. Quelle est-il ? Oui, on a 10 minutes, ça va. Alors, d'ailleurs, comment tu t'appelles, toi ? Binyamin. Que Binyamin a posé tout à l'heure. Il a donné d'ailleurs un certain nombre d'éléments de réponse, de façon immédiate.
les Bnei Israël, l'expression de Bnei Israël désigne les tribus d'Israël descendant de la famille de Jacob. C'est-à-dire ceux qui avaient l'identité hébraïque par hérédité, si j'ose dire, et qui donc, entre le temps d'Abraham, commence la sélection d'identité Israël, entre le temps d'Abraham et le temps de Moïse, il y a 6 générations d'éducation d'identité propre aux tribus d'Israël qui s'appellent les Bnei Israël. Le peuple qui sort d'Égypte, c'est pas seulement les descendants des tribus d'Israël, c'est tout un peuple qui s'est adjoint à ces descendants des tribus d'Israël. Et que d'autres textes, je vous donne une référence pour aujourd'hui, vous la verrez vous-même dans le livre, c'est le verset 7 du chapitre 32. Le verset 7 du chapitre 32, à propos du contexte de la faute du Vaudor, que d'autres textes appellent le Hérébrav, c'est-à-dire un grand mélange de population qui est sortie d'Égypte en même temps que les tribus d'Israël, sur l'initiative de Moïse. C'est un thème pour lui-même et que je relis à ce propos. Oui, le mot de Ham est péjoratif, alors que le mot de Bnei Israël, c'est la définition positive de l'identité dont on parle. Ham, le Ham, c'est ce qui est venu avec. Je suis qu'au début, au tout début de l'analyse, hein, un peu de patience. Et on voit la question qu'ils vont se poser là. Et en particulier, nous verrons que cet événement très important de la faute du Vaudor n'est pas sorti des Bnei Israël, mais de ce Ham. Vous voyez, dans cette référence, verset 7, chapitre 32. Alors, de quoi s'agit-il ? Assez rapidement, mais vous me direz vous-même si d'autres points devront être éclairés. Le principe qui apparaît, c'est que l'option de Moïse était que les Bnei Israël ne peuvent pas sortir d'Égypte s'ils ne sortent pas avec eux tous les individus de quelque origine que ce soit des autres peuples qui ont eu la même expérience pour venir s'adjoindre à l'identité Israël. Et effectivement, de quoi il s'agit comme expérience, on retrouvera dans les cours suivants. L'expérience, c'est dialectique Galout-Géoula. Aliénation dans l'exil et délivrance. Nous verrons que ce sont les deux dimensions de définition de la foi d'Israël. Pour le dire avec un verset évident, comment commencent les 10 commandements ? Quel est le titre que la Torah se donne à elle-même ? Anochi, Hashem Elokecha, Hashem Otsetira Melekutra. Je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, quel est l'objet de la foi en Dieu dans l'identité hébraïque ? C'est que la Géoula est possible. C'est que la délivrance des conditionnements est possible. C'est que la libération du déterminisme est possible. C'est une foi utopique pour l'intelligence naturelle, pour la pensée naturelle. Cette utopie commence avec Abraham. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec les définitions théologiques, philosophiques, classiques, que la définition de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Ça, ils vont mieux dessus, dans notre côté. Mais là, cette option de la Emouna, vous voyez, c'est le titre que la Torah se donne à elle-même. Qui te parle, et voilà ma loi, celui qui t'a fait sortir de l'esclavage. Donc apparaît ici une structure de l'histoire très schématique qui est aliénation dans les conditionnements du monde et expérience de libération de cela. C'est une dialectique en deux mots, en deux moments. Galout, Géoula. Et par conséquent, tous les hommes et les femmes, enfin je cherche un mot, vous comprenez l'idée, qui ont eu cette expérience-là en Égypte, dans le principe, sont de l'identité d'Israël. Parce qu'ils ont eu cette expérience, Galout, Géoula. Tous ceux qui ont dit à Moïse, vous sortez, on sort avec vous. Et s'ils ont dit cela, c'est que dans le principe, a priori, ils sont de l'identité d'Israël. Et par conséquent, Moïse régularise. Bon, comme ils n'ont pas eu les 6 générations d'Abraham à Moïse, alors il y a handicap. Voilà la première année, le premier texte. Est-ce que c'est clair ? Donc ça répond à ta question, Binyamin. Est-ce qu'on ne pouvait pas les laisser en Égypte ? Absolument pas. Si l'histoire d'Israël a un sens, c'est ce sens qu'elle a, faire l'expérience Galout Géoula et porter ce témoignage. On lira le texte bien attentif. Okay. Je voudrais préciser une question de méthode. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une interprétation sur le texte, c'est le texte lui-même. C'est-à-dire, si j'entends bien, votre objection est sur le texte. Bon, donc il faut faire une analyse de... Attendez, il faut lire le texte. Parce que quand vous dites sur le commentaire, qui, je ne comprends pas à quel niveau vous faites allusion. C'est le texte qui parle comme cela. Par conséquent, il faut faire une analyse des significations. Okay. Mais dès que Moïse intègre ces hommes à l'intérieur de l'identité d'Israël, ils sont Israël. C'est donc, dans chaque Israël, il y a ces niveaux-là. Vous comprenez ? C'est ce niveau-là de l'entité d'Israël qui s'appelle Ham. Et ce que j'explique, et je vais le répéter pour que ce soit bien entendu, c'est qu'il y a quand même une différence. Bien qu'il y ait la même destinée, pas seulement formellement, dans le principe, dans la finalité, okay, parce que l'identité d'Israël a commencé comme ça. Abraham a commencé par être comme ça. Okay. Il y a quand même une différence. C'est que les descendants des tribus avaient les 6 générations de tradition hébraïque, alors que les autres, non. D'où le handicap. Mais je voulais d'abord répondre à la question de Benjamin. La sortie d'Égypte ne pouvait pas se faire si on n'intègre pas ce RM. Alors ensuite, nous verrons, peut-être demain ou après-demain, votre question à vous, madame, c'est-à-dire pourquoi le texte tient à nous faire savoir que ce n'est pas les enfants d'Israël, dans le sens étymologique, qui avaient fait cette faute, mais ceux qui se sont rachetés. Mais déjà, nous pouvons avoir une récapitulation importante. C'est-à-dire, tout se passe comme si Israël prend sur lui la destinée de l'universel humain à travers le Hébreu, et c'est un pari, une option, un risque colossal. Okay. Et puis commence son histoire avec ça. C'est-à-dire une sorte de résumé de toute identité humaine, et j'expliquerai historiquement comment, qui se trouvait en Égypte et qui sort avec les tribus d'Israël pour former le peuple d'Israël, Am Bnei Israël, dans tous ces niveaux-là. Et ce pari colossal, gigantesque, est pris par Moïse. Parce qu'il a des raisons de savoir, on l'étudiera d'autre part, il sait très bien que si Israël n'emmène pas avec lui vers l'Élève, il ne peut pas sortir d'Égypte. Parce que ça priverait de sens la descente en exil et la Géoula. Vous avez compris le principe du voilà ce que je voudrais ajouter maintenant, c'est que dans cette civilisation égyptienne, il n'y avait pas que Israël qui était en esclavage. Tous les peuples de la civilisation de ce temps étaient les Avadim, les asservis, les aliénés de l'identité égyptienne. Et par conséquent, vous voyez, il y a une espèce de convergence, de parallèle de convergence, pas la même chose, mais il y a les deux à la fois, entre l'expérience individuelle de chaque individu de ce élève-là et ce qui était déjà l'identité collective de Bnei Israël. D'où vient la difficulté? C'est que si l'intégration du RFA s'était fait d'individu à individu, il n'y aurait pas eu de handicap. Mais c'est que c'est une foule à sa source, un ensemble numériquement très grand, à la fois qui, comme entité collective, entre dans l'entité collective d'Israël. C'est de là que vient le handicap. Est-ce que c'est clair D'ailleurs, la halakha va retenir ce principe. C'est-à-dire, quiconque a des raisons de dire et donc de savoir qu'il est en train d'expérimenter l'histoire d'Israël dans sa vie individuelle de goy, d'individu d'un autre peuple, et demande à s'adjoindre à l'identité d'Israël, est accepté à des conditions précises d'authenticité. C'est un autre problème. Vous comprenez le problème? Mais si un groupe fait cette demande, on refuse. C'est chaque individu qui s'intègre dans l'entité collective d'Israël. Mais une entité collective ou autre demanderait en bloc cette intégration, on refuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être faite. Ce n'est pas praticable. Je n'ai pas su être suffisamment clair. Chaque personne, justement, qu'est-ce qu'il en est réalité? Seuls les individus sont restés. Tous les autres sont repartis. J'ai eu à m'occuper d'un cas de ce genre, il y a une trentaine d'années, plus de 35. Il y avait 4 tribus du Kenya et 3 tribus de Madagascar qui ont demandé leur conversion collective à l'identité juive et de monter en Israël. Et la question a été étudiée pendant des années, et finalement, on leur a répondu, on ne peut pas changer la halakha, après avoir étudié leurs cas, c'est individuellement, chacun d'entre vous peut être intégré en Israël. En tant qu'identité collective, ce n'est pas possible. Parce que ça dénaturerait l'identité d'Israël. Or, c'est là qu'est le handicap historique. Nous voyons que Moïse a raison de les accueillir, chacun pour eux, chacun pour eux-mêmes, mais que le handicap vient, la catastrophe vient de ce qu'il a été obligé, à cause de l'urgence des événements, de les accueillir en bloc. Est-ce que c'est clair le... voilà donc quelle est la précision que je voulais apporter. Et alors, si vous voulez, on pourra consacrer le cours de demain, en particulier à ce problème, de comprendre un peu plus profondément pourquoi il est absolument nécessaire pour que la fin de la galoute de l'Égypte se réalise, que le Hébreu soit intégré. En tout cas, retenez bien une chose, et vous verrez dans le contexte que je vous ai donné, à partir du verset 7 du chapitre 32, que cette expression « Am Kesheore » qu'on traduit par « peuple à la nuque grecque » pour définir les Juifs en tant qu'ils sont le peuple d'Israël, eh bien c'est une erreur. Le texte l'emploie pour définir le Hébreu. Vous avez compris, c'est une calomnie. Peuple rebelle, ça veut dire, à la nuque grecque. Si vous l'indiquez là, ça devient beaucoup plus en effet. Et je vous fais préparer les feuilles pour demain. Parce que je crois que ça vaut la peine. Je ne sais pas si dans un des séminaires précédents, on a utilisé ça. Non. À un Shabbat, peut-être. Mais, à partir du moment, et vous verrez le texte très en détail. Regardez bien ces chapitres 32, 33 de Luc. À partir du moment où Israël a accepté l'Élevage, alors il intègre en lui cette mida, cette qualité, si vous voulez, de refus, de rébellion, de nucrète, on expliquera ça en détail, et il devient comme ça. Ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'il y a une sorte de... j'essaie de ne pas employer des mots du vocabulaire chrétien, si ça m'arrive, vous nuancez. Il y a une espèce de prendre sur soi la destinée de l'universel, avec tous les handicaps et les risques que ça va faire. C'est-à-dire, Israël se constitue comme identité élite, si j'ose dire, dans le sens étymologique de l'israélite, dans tous les cas. Mais, et puis, dès qu'il a constitué cette identité, il s'ouvre à un résumé de l'universel humain qui introduit en lui la mise à l'épreuve d'identité de tous les autres, qui n'étaient pas de l'histoire d'Abraham. C'est ça le LLM. Et là résulte qu'aujourd'hui, à part des exceptions. Que je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, aucun juif vivant ne peut savoir s'il est descendant d'Hébreu ou du Réleva. Vous comprenez le problème. Mais ce qui se décèle à l'échelle collective, et dans cette difficulté de l'état de chaos du pêle-mêle, tout au même niveau, c'est les tendances différentes dans la société. Il y a des tendances Réleva, il y a des tendances Réleva. Mais tout ensemble, ça forme le Ram. Vous avez compris le problème? Alors il en résulte que dans chaque événement, je vais envoyer mon chrétien, parce que c'est pas contre moi, crucial, ça se dévoile. Alors les premiers réagissent comme ça, les deuxièmes comme ça, vous voyez tous les niveaux qu'on a vus dans le langage de est-ce que c'est clair? Mais, ça pourrait être dit d'une autre manière. Si Israël n'était candidat dans son propre salut, eh bien c'est fini, les six générations, c'est fini. Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Amram, Moshe, et puis c'est fini, Israël est sauvé, le reste renvoyé à la prison. Okay? Non, au moment du salut d'Israël, Moïse prend une décision messianique, si je veux dire, et il décide, on rentre à l'Élève. Alors, toutes les difficultés recommencent. Mais à une toute autre échelle de l'histoire qui a commencé au premier homme. Parce que si vous comprenez bien, ce qui se passe au niveau du peuple d'Israël sortant d'Égypte, c'est une sorte de faute originelle à l'échelle collective. Okay? En introduisant cette prise en charge de ce qui était advenu de l'humanité antérieure. Mais je reviens au principe explicatif que le Maharal nous donne de façon très très claire. Okay? Pourquoi Moïse a pris cette décision? D'abord parce qu'il devait, il connaissait, on l'étudiera plus en détail, connaissait le sens de la destinée d'Israël en tant que destinée historique, et parce que quiconque, quelle que soit la manière dont il l'exprime, parce que ces gens ne savaient pas dire en quoi ils étaient comme les Hébreux, ils ne savaient pas le dire. Ils n'avaient pas le patois de Canaan, comme nous disons, ils n'avaient pas le patois familial de la famille d'Abraham. Okay? Mais quelle que soit la forme dans laquelle il l'exprime, si un homme a fait cette expérience galoute Guéoula, alors il est candidat au dit commandement. Il est candidat à l'identité de la Torah. Est-ce que c'est clair? Puis, dans tous les cas, c'est comme ça que ça a commencé avec Abraham. Et je reviendrai déjà à cela à partir de demain. Okay. Et les 3000, c'est autre chose. Je ne sais pas quels 3000 vous pensez. Les 3000 qui étaient. Attendez, les 3000 qui étaient en plus que les 600 000
c'est la fin.
Ah, d'accord. D'accord. Attendez. Et quand vous citez les commentaires, à quel commentaire vous faites allusion? Alors, si vous voulez, on étudiera ce problème jusque-là. D'ailleurs, nous avons quand même il y a eu encore quatre catégories de gens. Mais. Des gens en ce temps-là. Si vous voulez, on essaiera de mettre ça en forme. Mais ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que. Dans l'entité collective de cette société qui s'appelle Israël, il y a donc des halakim, enfin des fonctions différentes, et que les trois fonctions qui s'appellent Ham à ce niveau-là viennent du Hébreu. Puisque le texte n'appelle Bnei Israël qu'à partir de la quatrième de la section. Alors j'ajoute une explication à ce thème, et ensuite il resterait 5 minutes pour débattre des sujets de la suite. C'est ceci. En fin de compte, lorsque cette faute du Vaudor va avoir lieu, il y a deux catégories de responsabilités différentes. L'acte de l'initiative de la faute vient du Hélévar. Mais la culpabilité d'Israël, c'est que ceux d'Israël n'ont pas été capables de l'empêcher. Alors il y a eu finalement une co-responsabilité. Ce qu'il y a de très frappant, c'est que dans toute notre histoire, jusqu'à la fin des temps, disons jusqu'au temps messianique, nous voyons que quel que soit le problème qui divise le peuple juif Israël, il le divise toujours grosso modo en deux, les uns et les autres. J'ai remarqué cela. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes par rapport à tel ou tel problème, mais tout se passe comme si cette espèce d'équilibre de deux forces contraires est toujours là, un peu 51%, 49%, 49%, 51%. Vous voyez, quels que soient les problèmes d'identité auxquels Israël est confronté. Effectivement, nous verrons ce verset où ceux qui ont fait le vaudor disent à Israël Elohecha Israël, Asher Ha'aleinu Melech Israël. Voici tes dieux Israël qui nous ont fait monter du pays d'Égypte. Qui s'adresse à Israël pour dire voici tes dieux Israël? C'était les autres. Bon, on verra ça un peu plus en détail. Et il n'y a pas de doute qu'il y a une sorte de co-responsabilité. Finalement, dans le résultat, c'est ce que les versets de la fin du chapitre 32 disent. Dans le résultat, c'est l'entité collective qui introduit en elle cette mida de Am Kesheron. Alors voilà ce que je vous propose. Demain, nous allons étudier ce passage du Vaudor. Il me semble qu'il y a un séminaire, on l'a étudié là, on a dit ça à Shabbat. Et puis, en ce qui concerne notre sujet en tout cas, et puis nous commencerons l'étude du Maharal sur les Midrashim concernant le passage de la mer Rouge. Au moment où j'avais simplement l'introduction, voulu vous indiquer qu'il y a quatre, puis une cinquième réaction différente à l'événement. Et comment on voit cela dès le début. Alors si vous voulez, gardez les feuilles qu'on vous a données pour demain, et demain vous aurez d'autres feuilles, c'est-à-dire le texte du Maharal et les quelques versets du chapitre 32 dont on aura besoin. Dans ce chapitre-là. Oui, dans ce chapitre. Je vais vérifier, mais je pense que c'est dans ce chapitre.
Shabbat, est-ce qu'il y a Shabbat?
Il y a pas une Shabbat?